Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs dans quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Berita, commentaire HDS. Serviteur, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous. Vous écoutez La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La lutte contre la campagne noire, l'ambassade d'Indonésie fait l'éducation publique. Festival de l'Indonésie sera organisé à nouveau à Moscou. Publication des données VMS invite la participation communautaire à surveiller les activités de pêche indonésiennes. La Turquie soutient l'Indonésie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Daerah istimewa Yogyakarta est la destination touristique importante pour les touristes du Portugal. Voici le journal complet. Dans une série de festivals indonésiens 2017 qui aura lieu au jardin de l'Ermitage Moscou du 4 au 6 août 2017, l'ambassade d'Indonésie à Moscou effectue l'éducation publique afin de lutter contre la campagne noire sur les produits de l'huile de palme indonésienne. Ambassadeur d'Indonésie en Russie, M. Wahid Supriyadi, dans une conférence de presse tenue récemment, a expliqué « La campagne noire sur l'huile de palme indonésienne en Russie n'est pas aussi difficile en Europe occidentale. » Toutefois, selon lui, il faut nécessiter la lutte contre la campagne noire pour ne pas se soucier de l'avenir. À cette fin, l'éducation publique liée à l'huile de palme indonésienne se tiendra dans une série de festivals indonésiens le 3 août à Moscou. Auparavant, le 3 février, l'activité a été organisée par les hommes d'affaires dans le domaine de palmiers à l'huile, parce que nous le concerne aussi et il y a une petite campagne noire là-bas, comme si notre huile de palme est le numéro 2. Notre huile de palme n'est pas saine. Nous voulons offrir une sorte d'éducation publique que l'huile de palme est bonne et saine. L'ambassadeur Wahid a expliqué que l'éducation publique serait donnée par le professeur Medvedev de la faculté de médecine de l'Université d'État de Moscou, la meilleure université en Russie. L'éducation du public sera également suivie par les médias locaux. Sur la base des données ITC Trademark, les produits d'huile de palme et leurs dérivés sont le deuxième produit d'exportation de l'Indonésie à la Russie. En 2015, il y a l'augmentation des exportations de 20-60% par rapport à 2014. L'ambassade d'Indonésie à Moscou se tiendra à nouveau le deuxième festival d'Indonésie 2017 à Ermitage Garden Moscou du 4 au 6 août 2017. Le festival est précédé par la mise en œuvre d'un business forum à l'hôtel Intercontinental Moscou. L'ambassadeur d'Indonésie en Russie, M. Wahid Supriyadi, dans une conférence de presse le mercredi 5 juillet, a expliqué que ce forum était l'événement promotionnel de l'Indonésie dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme. Le thème du festival cette année est Visit Wonderful Indonesia, Enjoy Its Diversity. Il y a aussi des activités d'affaires pour réunir le potentiel acheteur russe avec ses homologues indonésiens. Le festival de l'Indonésie est emballé par le commerce, le tourisme et la promotion. Le point de puissance de l'Indonésie est la culture, mais en faisant l'exposition culturelle, nous faisons aussi le commerce et les concepts du festival indonésien. Selon l'ambassadeur Wahid, le festival indonésien est tenu à diverses activités, telles que sous la forme d'exposition des produits d'exportation indonésiens, affichage du potentiel touristique indonésien, la représentation artistique et culturelle sur la scène principale, l'exposition de photos, un défilé de costumes nationaux, la mode, la classe de cuisine, la représentation de marionnettes en cuir, l'atelier de batik et de l'artisanat, les ventes de la cuisine indonésienne, l'arène de jeux, spa et aromathérapie. Le festival indonésien sera ouvert par le ministre de la Culture de fédéral russe et l'ambassadeur d'Indonésie à Moscou, assisté par le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, le ministre du Tourisme. Et on espère que ce festival peut être assisté par environ 100 000 visiteurs. La ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré son engagement d'ouvrir les données de surveillance des navires ou le système de surveillance des navires VMS à travers la plateforme de Global Fishing Watch. Il a été déclaré le 8 juin 2017 en marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan 2017 à New York, les États-Unis. Global Fishing Watch est la média en ligne pour voir les activités de la pêche dans le monde qui sont formées par la collaboration entre Google et les deux organismes sans but lucratif, SkyTruth et Oceana. À travers Global Fishing Watch, tout le monde avec une connexion Internet peut voir l'activité de pêche dans le monde entier, presque en temps réel, gratuitement. Dans un communiqué reçu de la Voix d'Indonésie RRI, du Bureau de la coopération et les relations publiques, du ministère des Affaires maritimes et de la pêche MMAF, à Jakarta 6 juillet, on a dit que la publication des données peut garantir une gestion durable des pêches et d'améliorer la surveillance des activités de pêche en Indonésie via la participation communautaire. Selon le ministre Susi Pujiastuti, les activités de pêche illégales peuvent être surveillées grâce au rapport de VMS. L'Indonésie a besoin des chances des informations crédibles, étant plus transparent lié aux pêches entre les États. La ministre Susi a également pitié des petits pêcheurs qui comptent sur la mer comme le domaine de travail et une source de nourriture si le gouvernement indonésien n'est pas sérieux de résoudre le problème de la pêche illégale. La Turquie fournit officiellement le soutien pour l'Indonésie d'être le membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. La ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, jeudi à Ankara, a déclaré qu'il y avait des soutiens de divers pays qui rendent l'Indonésie plus optimiste pour obtenir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a déclaré que le rival de l'Indonésie était les Maldives. Elle a confirmé de travailler dur pour produire de bons résultats pour la nation. Le tourisme est l'une des questions discutées par l'ambassadeur du Portugal en Indonésie, Rui Fernando Sucena do Carmo, est le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X à Yogyakarta, le jeudi. Selon Fernando Susena do Carmo, jusqu'à présent, beaucoup de touristes du Portugal qui viennent en Indonésie, mais ils sont plus visités Bali. Dans l'avenir, on espère qu'ils visitent aussi Yogyakarta, qui est l'une des destinations importantes pour les touristes du Portugal. Il a affirmé que sa visite à Yogyakarta vise à rencontrer le gouverneur de Yogyakarta et le recteur de l'université Gadjah Mada et discuter des possibilités de coopération entre l'université Gadjah Mada avec le gouvernement portugais. L'ambassadeur du Portugal a déclaré qu'une série de visites dans plusieurs provinces en Indonésie vise à renforcer les relations entre l'Indonésie et le Portugal. Chers auditeurs, c'était le journal.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Secrétaire, voici donc le commentaire et pour le titre, le conflit de Qatar continue. Le conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar nécessite d'autres mesures à résoudre. Bien que le Qatar ait déjà offert une option par le dialogue, l'Arabie Saoudite insiste encore sur l'imposition des sanctions pour le Qatar. L'étape concrète dans un proche avenir est la tenue d'une réunion de l'Arabie Saoudite et de ses trois alliés, les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis tiendront la réunion au Caire cette semaine. La préparation de la réunion aux États du Golfe a partagé une déclaration commune qui regrette la réponse négative du Qatar à leur demande. Les pourparlers des quatre pays du Golfe au Caire dans un avenir proche auront lieu après un mois. Ils ont conjointement rompu les relations diplomatiques avec le Qatar. Il considère que le Qatar, en tant que pays riche, appuie le terrorisme et a une attitude douce contre la politique de l'Iran, qui est l'ennemi de l'Arabie Saoudite. Le Qatar refuse fermement toutes les allégations. Après près d'un mois, le Qatar n'a pas répondu à ces accusations et a peur du boycott de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Les quatre États du Golfe ont pris des demandes complètes. Il y a 13 demandes déposées à la mi-juin. Ne concentre pas seulement l'accusation que le Qatar finance une organisation terroriste, mais aussi des demandes de l'Arabie Saoudite que le Qatar fournit toutes les informations détaillées sur les figures financées par le Qatar, en particulier les personnalités de l'Arabie Saoudite et trois autres pays arabes. En outre, l'Arabie Saoudite a également demandé au Qatar d'arrêter le financement aux entreprises de médias comme Al Jazeera, Arabie 21 et Middle East Eye. L'Arabie Saoudite est mal à l'aise avec le contenu diffusé par Al Jazeera. Les demandes demandées qui doivent être remplies en jour ne sont pas remplies. Si bien que Riyad et ses alliés insistent pour prolonger leur boycott. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que la réponse du Qatar aux demandes des Arabes et des alliés n'est pas substantielle. La réponse officielle du Qatar a été transmise via le Koweït en tant que médiateur dans ce conflit. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a critiqué le Qatar pour le manque de compréhension de la situation cruciale rencontrée entre le Qatar et les quatre États du Golfe. L'Égypte est très préoccupée parce que le Qatar est considéré comme ayant soutenu le mouvement des frères musulmans interdit en Égypte. Sur la base des derniers développements, nous pouvons dire que les ravages de l'Arabie Saoudite et ses trois alliés contre le Qatar n'ont pas encore trouvé de signes de fin. Le Koweït, qui a déclaré être un médiateur, doit faire un effort réel pour interférer le conflit entre le Qatar et les quatre États du Golfe en tant que pays voisin. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui. Et nous commençons à l'avènement du 7 juillet 1937. L'incident de pont Marco Polo marquait le début de la guerre sino-japonaise. L'incident du pont Marco Polo à proximité de Pékin marque le début de la guerre sino-japonaise. Suite à la disparition d'un de leurs soldats, les Japonais décident de fouiller la ville. Face à la résistance chinoise, ils font venir les renforts. Le 28 juillet, Pékin sera entre leurs mains. En réalité, l'armée japonaise était installée en Manchurie depuis 1931. Mais ce n'est qu'à partir de cette attaque qu'elle affiche sa volonté de conquérir la Chine. Sa progression sera dès lors très rapide. Toutefois, elle sera fortement ralentie au nord par la guérilla menée par les communistes, tandis que le Kuomintang livrera quelques batailles importantes. La suite, nous nous tournons vers l'événement du 7 juillet 1978. Les îles Solomon avaient son indépendance. Le 7 juillet 1978, les îles Solomon, situées dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont obtenu leur indépendance. Ces îles ont été habitées depuis 1000 avant Jésus-Christ et les Européens d'abord ont marqué les pieds en 1567. En 1885, l'Allemagne a réclamé les îles Solomon comme ses colonies. Mais 10 ans plus tard, les Britanniques ont occupé ces îles ainsi que son protectorat. Après la Seconde Guerre mondiale, les gens de Solomon se sont mis à se battre pour son indépendance jusqu'à finalement l'indépendance en 1978. La population de ces îles Solomon est la majorité de l'ethnie mélanésienne. Nous terminons ce jour dans l'histoire avec l'événement du 7 juillet 2005. 4 attentats suicides sont survenus à Londres. Alors que Londres fait sa destination pour organiser les Jeux olympiques de 2012 et que le sommet de G8 occupe en Écosse, 4 explosions successives ébranlent les transports londoniens. 3 déflagrations se produisent dans le métro à l'heure d'embouche, tandis qu'un bus à l'impérial explose une heure plus tard. Le bilan de 56 morts endeuillés, l'Angleterre annonce un durcissement des mesures antiterroristes dans un pays qui avait jusqu'à ici joué la carte de la tolérance avec les islamistes radicaux. Chers auditeurs, c'était le programme de l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, l'Indonésie a envoyé l'équipe d'observateurs d'UPE aux Philippines du Sud. Le gouvernement indonésien a soutenu le processus pacifique aux Philippines du Sud entre le gouvernement philippin et le Front de Libération Islamique Moro, MILF. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, mercredi le 5 juillet 2017, a mentionné que le soutien du gouvernement indonésien a envoyé à nouveau l'équipe d'observateurs indonésiens au TPI pour servir dans le programme Équipe internationale de surveillance IMT dans le sud des Philippines pour la période 2017-2018. L'envoi des personnels TPI IMT a été effectué depuis 2012. Le directeur général par intérim de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Salman Al-Farisi, a dit que la présence de TPIMT dans le sud des Philippines avait été contribuée au processus de paix entre le gouvernement philippin et le MILF. Selon Salman Al-Farisi, l'équipe des observateurs indonésiens de l'équipe internationale de surveillance a participé activement et prend un rôle important dans d'autres aspects de la paix sur le champ. Salman Al-Farisi a souligné le rôle important de l'Indonésie dans le processus de paix dans le sud des Philippines a obtenu l'appréciation du gouvernement des Philippines, comme c'est reflété dans la déclaration du président des Philippines, Rodrigo Duterte, lors de la visite d'État du président indonésien aux Philippines en avril. Selon Salman, le commandant du groupe de travail de l'équipe internationale de surveillance pour la période 2016-2017 a rapporté que, dans le niveau politique, le gouvernement des Philippines et le MILF entrent dans une période cruciale. Cependant, le défi à l'avenir pour le processus de paix sera très dynamique, particulièrement lié au développement de la situation dans Marawi, où jusqu'à présent, il y a encore des tirs croisés entre les forces armées des Philippines avec un groupe Maute. Ce défi rend la tâche du groupe de travail du MTTPI pour la période 2017-2018 est devenue plus tard une période importante pour le processus de paix aux Philippines. Salman a déclaré, l'envoi du personnel TPI-IMT pour la période 2017-2018 est également équipé de personnel féminin. Salman a expliqué, la politique de l'envoi des personnels féminins est faite parce que le gouvernement indonésien, conformément à l'appel de l'ONU, veut encourager le rôle des femmes dans les missions de paix. Dans la tâche de TPI-IMT précédent, l'Indonésie avait également envoyé du personnel féminin dans la période 2015-2016. Le contingent indonésien se composant de 4 personnels militaires de TNI et de personnel civil du ministère des Affaires étrangères est parti mercredi matin, le 5 juillet. Des personnels militaires sont partis pour les Philippines comme une équipe avance à la fin de juin. Le gouvernement indonésien a envoyé 81 personnels de TPI-IMT depuis 2012 jusqu'en juillet 2017. Serviteurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Dans une série de festivals indonésiens 2017 qui aura lieu au jardin de l'Ermitage Moscou du 4 au 6 août 2017, L'ambassade d'Indonésie à Moscou effectue l'éducation publique afin de lutter contre la campagne noire sur les produits de l'huile de palme indonésienne. Ambassadeur d'Indonésie en Russie, M. Wahid Supriyadi, dans une conférence de presse tenue récemment, a expliqué « La campagne noire sur l'huile de palme indonésienne en Russie n'est pas aussi difficile en Europe occidentale. Toutefois, selon lui, il faut nécessiter la lutte contre la campagne noire pour ne pas se soucier de l'avenir. À cette fin, l'éducation publique liée à l'huile de palme indonésienne se tiendra dans une série de festivals indonésiens le 3 août à Moscou. Auparavant, le 3 février, l'activité a été organisée par les hommes d'affaires dans le domaine de palmiers à l'huile, parce que nous le concerne aussi et il y a une petite campagne noire là-bas, comme si notre huile de palme est le numéro 2. Notre huile de palme n'est pas saine. Nous voulons offrir une sorte d'éducation publique que l'huile de palme est bonne et saine. L'ambassadeur Wahid a expliqué que l'éducation publique serait donnée par le professeur Medvedev de la faculté de médecine de l'Université d'État de Moscou, la meilleure université en Russie. L'éducation du public sera également suivie par les médias locaux. Sur la base des données ITC Trademark, les produits d'huile de palme et leurs dérivés sont le deuxième produit d'exportation de l'Indonésie à la Russie. En 2015, il y a l'augmentation des exportations de 20-60% par rapport à 2014. L'ambassade d'Indonésie à Moscou se tiendra à nouveau le deuxième festival d'Indonésie 2017 à Hermitage Garden Moscou du 4 au 6 août 2017. Le festival est précédé par la mise en œuvre d'un business forum à l'hôtel Intercontinental Moscou. L'ambassadeur d'Indonésie en Russie, M. Wahid Supriyadi, dans une conférence de presse le mercredi 5 juillet, a expliqué que ce forum était l'événement promotionnel de l'Indonésie dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme. Le thème du festival cette année est « Visit Wonderful Indonesia, Enjoy its Diversity ». Il y a aussi des activités d'affaires pour réunir le potentiel acheteur russe avec ses homologues indonésiens. Le festival de l'Indonésie est emballé par le commerce, le tourisme et la promotion. Le point de puissance de l'Indonésie est la culture, mais en faisant l'exposition culturelle, nous faisons aussi le commerce et les concepts du festival indonésien. Selon l'ambassadeur Wahid, le festival indonésien est tenu à diverses activités, telles que sous la forme d'exposition des produits d'exportation indonésiens, affichage du potentiel touristique indonésien, la représentation artistique et culturelle sur la scène principale, l'exposition de photos, un défilé de costumes nationaux, la mode, la classe de cuisine, la représentation de marionnettes en cuir, l'atelier de batik et de l'artisanat, les ventes de la cuisine indonésienne, l'arène de jeu, spa et aromathérapie. Le festival indonésien sera ouvert par le ministre de la culture de fédéral russe et l'ambassadeur d'Indonésie à Moscou, assisté par le ministre du commerce de la République d'Indonésie, le ministre du tourisme, et on espère ce festival peut être assisté par environ 100 000 visiteurs. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré son engagement d'ouvrir les données de surveillance des navires ou le système de surveillance des navires VMS à travers la plateforme de Global Fishing Watch. Il a été déclaré le 8 juin 2017 en marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan 2017 à New York, les États-Unis. Global Fishing Watch est la média en ligne pour voir les activités de la pêche dans le monde qui sont formées par la collaboration entre Google et les deux organismes sans but lucratif, SkyTruth et Oceana. À travers Global Fishing Watch, tout le monde avec une connexion Internet peut voir l'activité de pêche dans le monde entier, presque en temps réel, gratuitement. Dans un communiqué reçu de la Voix d'Indonésie RRI, du Bureau de la coopération et les relations publiques, du ministère des Affaires maritimes et de la pêche MMAF, à Jakarta 6 juillet, on a dit que la publication des données peut garantir une gestion durable des pêches et d'améliorer la surveillance des activités de pêche en Indonésie via la participation communautaire. Selon le ministre Susi Pujiastuti, les activités de pêche illégales peuvent être surveillées grâce au rapport de VMS. L'Indonésie a besoin des chances des informations crédibles, étant plus transparent, lié aux pêches entre les États. La ministre Susi a également pitié des petits pêcheurs qui comptent sur la mer comme le domaine de travail et une source de nourriture si le gouvernement indonésien n'est pas sérieux de résoudre le problème de la pêche illégale. La Turquie fournit officiellement le soutien pour l'Indonésie d'être le membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. La ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, jeudi à Ankara, a déclaré qu'il y avait des soutiens de divers pays qui rendent l'Indonésie plus optimiste pour obtenir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a déclaré que le rival de l'Indonésie était les Maldives. Elle a confirmé de travailler dur pour produire de bons résultats pour la nation. Le tourisme est l'une des questions discutées par l'ambassadeur du Portugal en Indonésie, Rui Fernando Susena do Carmo, et le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X à Yogyakarta le jeudi. Selon Fernando Susena do Carmo, jusqu'à présent, beaucoup de touristes du Portugal qui viennent en Indonésie, mais ils sont plus visités Bali. Dans l'avenir, on espère qu'ils visitent aussi Yogyakarta, qui est l'une des destinations importantes pour les touristes du Portugal. Il a affirmé que sa visite à Yogyakarta vise à rencontrer le gouverneur de Yogyakarta et le recteur de l'université Gadjah Mada et discuter des possibilités de coopération entre l'université Gadjah Mada avec le gouvernement portugais. L'ambassadeur du Portugal a déclaré qu'une série de visites dans plusieurs provinces en Indonésie vise à renforcer les relations entre l'Indonésie et le Portugal. Chers auditeurs, c'était le journal.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosmar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosmar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosmar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré. 2. Dans quelle langue de programme écoutez-vous la voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le lac bleu qui se trouve à Chisoka. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Si vous vous trouvez à Jakarta et souhaitez de voyager non loin de Jakarta, vous pouvez prendre le temps de visiter le lac bleu Chisoka. Ce lac bleu Chisoka est connu sous le nom du lac bleu Cigaru. Ce lac n'est pas de lac naturel, mais l'ancienne excavation de sable qui n'est plus en service. Le trou creusé a une profondeur de dizaines de mètres et rempli par l'eau de pluie jusqu'à devenir un lac. Les résidents autour du lac donnent alors le nom le lac Cigaru. Le lac bleu Cigaru, ce nom a été donné en raison de la couleur de l'eau du lac qui est en effet bleu, bien que parfois la couleur de ce lac se transforme en jaune ou clair. Ce beau lac est situé dans le village Cigaru, district Chisoka en région Tangerang. Dans un lieu touristique relativement nouveau, il y a deux lacs qui sont situés à droite de l'entrée, ayant l'eau bleue, et le lac à gauche de l'entrée, outre plus large, a également l'eau verte. La combinaison de couleurs de lac plus les arbres ombragés ajoute à la beauté des paysages dans ce lieu touristique. La couleur de l'eau au lac est souvent instable en raison des niveaux élevés d'acidité, atteignant 7. Il y a aussi les algues qui peuvent changer de couleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil. En raison de la haute acidité de l'eau de lac et aussi sa profondeur, c'est interdit aux visiteurs de nager ici. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours profiter de la beauté du lac bleu Chisoka en louant un petit bateau au prix de 20 000 rupiah à un cercle le lac. Pour arriver au lac bleu Chisoka, vous pouvez prendre le train en plus de profiter du paysage ainsi que pour éviter les embouteillages. Vous pouvez laisser de la station Tanah Abang Jakarta en prenant le train électrique en direction Tanah Abang Maja et descendre à la station Tiga Raksa Tangerang. De la gare Madia, vous pouvez continuer le voyage en prenant le transport public ou moto. La distance de la station de bus est environ 300 mètres de transport public. Vous pouvez prendre le transport public à Diasa Balaraja et arrêter à Tisoka. Ensuite, vous pouvez aller sur une moto à la porte du lac bleu Tisoka. Le billet d'entrée au lac bleu Tisoka est 10 000 rupiah, y compris le coût du stationnement. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici une news en couleur et en pour titre les pesticides respectueux de l'environnement des déchets industriels des cigarettes. Sur Twitter, ces derniers temps, nous nous rendons compte que l'utilisation de pesticides de synthèse comme les fruits de Simalakama, derrière les grands avantages pour augmenter la production agricole, il était caché un terrible danger pour la vie humaine. Le danger est la pollution environnementale et l'empoisonnement provoquant des effets mortels tels que le cancer, le handicap, etc. Se rendre le danger, un groupe d'étudiants de l'Université islamique d'Indonésie, UII Yogyakarta, à savoir Indrasti Dwi Pujastari, Cahyati Rizki Nur Lestari et Marina du programme d'études aux produits de la chimie, font fabriquer le pesticide naturel respectueux de l'environnement qui utilise la production de déchets de cigarettes sous la forme de restes des feuilles et les tiges de tabac. Une telle innovation par la recherche intensive d'explorer les avantages des déchets résiduels de tabac vise à aider les agriculteurs des plantes de poivre de faire face aux ravageurs de chenilles légionnaires. Les attaques de ravageurs de chenilles légionnaires sont souvent considérées comme un flou pour les agriculteurs de poivre car il est très répandu et destructeur. Selon Dwi Pujilestari, si le reste des feuilles et des tiges de tabac est dans les extraits, ils produisent le contenu des substances de nicotine alcaloïde élevées. Cette substance est une sorte de neurotoxine très puissante qui paralyse tous les insectes. Le fonctionnement de pesticides naturels et respectueux de l'environnement est de perturber le système nerveux central des insectes qui ont été exposés à la nicotine. Et les résidus de ces pesticides se décomposent plus facilement dans la nature afin de ne pas polluer l'environnement. Pour extraire le contenu de substances de déchets de tabac, il nécessite plusieurs processus. Tout d'abord, les déchets de tabac sont lissés et trempés dans une solution de méthanol. Ensuite, l'extrait des résultats d'immersion est filtré et le solvant méthanol est évaporé pour obtenir un extrait brut. L'extrait brut est ensuite traité pour produire un alcaloïde qui est prêt à être utilisé en tant que solution de pesticide. Bien que les pesticides puissent tuer les ravageurs de plantes de poivre, les étudiants du II nécessitent encore des recherches pour déterminer la combinaison de la solution d'extraction des déchets de tabac qui est plus efficace comme pesticide naturel. En outre, ces étudiants s'efforcent encore à développer les moyens de fabriquer les pesticides naturels qui sont facilement appliqués par les agriculteurs de piment sur le terrain. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, comme la fin de notre émission, voici donc le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous vous présentons une rubrique musicale. Et ce soir, nous présentons des chansons de dangdut. Voici la première chanson intitulée Cinta Berbuah Duka, chantée par Ike Nurjana.
Setiap malam sepi, sunyi mencekam di hati. tersiksa. Sungguh tak kusangka cintamu berbuat duka. Kunang-kunang malam tunjukkan aku jalan. Ingin ku berlari mencari kekasihku.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans le programme musical. Chers amis, c'était la première chanson intitulée Cinta Berbuah Duka chantée par Ika Nurjana. Elle est une chanteuse de dangdut qui a un son distinctif et largement connu par le public indonésien. Ika ne rêvait jamais de devenir une chanteuse professionnelle car elle préfère d'être une enseignante de maternelle. Ika Nurjana est l'une des chanteuses de dangdut connu dans ce pays. Elle est née le 18 mai 1974 à Jakarta. Son premier album, intitulé Ojo Lali en français, N'oubliez pas, a reçu une réponse positive de la communauté dans ce pays. Et jusqu'à présent, elle a publié des dizaines d'albums. Elle était célébrée par la chanson intitulée Terlena ou Endormi. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Ika Nurjana intitulées L'amour et le dilemme.
Kenyang mendung.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.